Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale qui a bien du mal à faire face à la profusion d'événements que propose la scène classique toulousaine en ce mois d'octobre. Tous méritent que nous en parlions tellement la qualité est à chaque fois au rendez-vous. À ce titre, nous reviendrons la semaine prochaine sur la magnifique production de Rusalka à l'Opéra National du Capitole et sur celle de Daphnis et Alcimadur au même endroit. Il y a eu aussi de très beaux concerts lors du festival Toulouse les Orgues. Bref, nous avons vraiment été gâtés ces jours-ci et ce n'est pas fini puisque la saison des grands interprètes vient de commencer et que celle des arts renaissants se profile. C'est pour vous présenter cette dernière que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à Mélomanie Claude Scavazza et Jean-Marc Andrieux, respectivement président et directeur artistique des Arts Renaissants. Nous allons faire le tour de la programmation 2022-2023 avec eux en seconde partie d'émission. À leur côté, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer encore une fois sur l'érudition de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est avec Serge que nous allons tout de suite revenir sur deux concerts récemment donnés à Toulouse. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Une autre saison musicale toulousaine tourne également à plein en ce moment, c'est celle de l'Orchestre National du Capitole qui était encore sur le pont à la Halle aux Grains samedi dernier. Un concert qui avait la particularité de ne proposer qu'une seule œuvre au programme et pour cause, parce qu'il s'agit d'une œuvre monumentale, un Requiem allemand de Johannes Brahms. Nous avons assisté tous les deux à ce concert dirigé par le chef belge David Reiland. Serge, est-ce que vous avez apprécié cette interprétation d'un des chefs-d'œuvre du grand compositeur germanique?
Alors, j'ai apprécié à quelques réserves près.
Je pense que nous allons avoir les mêmes, allez-y.
Nous en avons un peu discuté, pourquoi ne pas
le dire.
Effectivement, alors bon, d'abord je voudrais préciser, il s'agit d'une œuvre sacrée, mais pas liturgique. Ça n'est pas une messe, il n'y a pas des kyriés. Donc c'est en fait, d'après l'écriture même de Brahms, un requiem allemand sur des textes de l'écriture sainte pour soliste, chœur et orchestre. Avec orgue ad libitum, là il n'y avait pas d'orgue, mais ça n'est pas obligatoire. Donc il y a sept parties qui se succèdent, et pour ma part, mais peut-être que je me trompe, je considère que chez Brahms, il y a une espèce d'austérité généreuse, et sacrée en l'occurrence ici, et là, la direction de David Reiland était plutôt vigoureuse, quelquefois un peu agressive, hein, vis-à-vis de l'orchestre et du chœur. Alors, précise, hein, c'est...
Sa gestique est très précise,
gestique
des
est
indications
très,
claires,
très claire, absolument, absolument.
Ouais. Mais chef de chœur, beaucoup tourné vers le chœur. Ouais.
Voilà, c'était exalté comme interprétation, effervescent, plus que recueilli en quelque sorte. Hein. Mais bon, il y avait de très beaux moments, et en particulier avec les interventions du baryton. Alors, il y a eu un changement. Initialement, c'est Edwin Crossley Mercer, qui est franco-irlandais, qui devait chanter, et puis il est tombé malade. Et donc, il a été remplacé par un tout jeune baryton, islandais, lui, qui s'appelle Johan Kristinsson. Moi, qui m'a paru excellent, à la fois de timbre, de noblesse,
de volume,
finesse, ouais. D'intelligence, de sensibilité. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa déclamation. Vraiment très, très beau. Par contre, je n'ai pas vraiment apprécié l'intervention unique de la soprano, une soprano sud-coréenne, Sunhae Im, qui a eu vraiment peine à convaincre, pour ma part, surtout par un vibrato envahissant. Vraiment, ouais. Là c'est trop. Hein, c'est... Donc,
pas adapté.
Pas vraiment. Donc, là...
C'est... Moi, je l'ai trouvé, je veux dire, le mot, tant pis, hein, transparente. Très peu de présence, en plus.
Oui, c'est vrai.
Alors, elle avait une intervention, effectivement, qui était courte.
Non, mais... elle a un air, un seul air, Traurigkeit, mais... tristesse, justement. Ouais. Donc, c'est un peu...
Alors, il y a une autre question, c'est la question du chœur, du Capitole. Oui. Est-ce que c'est sa musique? Parce qu'ils étaient sur le front du côté Rusalka, pour certains, enfin pas tous. Hein.
Le cœur était précis, mais ce qui m'a
bien
un
préparé,
peu gêné,
oui.
C'est que les toutis étaient tellement puissants
oui.
Que par moments, ça saturait l'acoustique de la halle.
Oui.
Alors peut-être que dans une autre acoustique, ça serait passé, mais là c'est vraiment très très fort.
Hein. Oui.
Alors bon, c'est un peu dommage.
Dans l'ensemble, comme vous dites, il y a eu de bons moments.
Ah oui, bien sûr.
Mais on a entendu de meilleures interprétations, pour le dire clairement, de cette œuvre.
Voilà, exactement.
Ce Requiem allemand qui est d'ailleurs donné assez souvent à la Lograin.
Oui, oui, oui. Mais moi, ce que j'ai quand même apprécié, il faut quand même le dire, c'est la qualité des solos instrumentés.
Et oui, ça toujours.
De l'orchestre, comme toujours, il faut, faut le dire.
Ouais.
C'est pas être chauvin que de reconnaître la qualité.
On le dit régulièrement,
c'est
vrai.
Des solistes de l'orchestre, et en particulier du hautbois.
Oui.
Parce que le hautbois, dans cette œuvre-là, il a un rôle particulier à jouer, et il le joue magnifiquement.
Je n'ai pas d'extrait d'un requiem allemand dans la version de l'Orchestre National du Capitole à vous proposer, mais j'en ai une du Wiener Philharmoniker, dirigé par Nikolaus Harnoncourt. Voici le tout début, le premier air, Selig sind die da Leid tragen. Selig sind die da Leid tragen, heureux ceux qui souffrent, premier air d'un requiem allemand de Johannes Brahms interprété par le WPO sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, vendredi prochain le 21 octobre à la Hallograin bien sûr. Nous allons vous le présenter plus tard dans cette émission, lundi toujours à la Hallograin, c'était le premier concert de la saison des grands interprètes. Il a été donné par un habitué du lieu, l'ensemble Pygmalion, dirigé par son fondateur Raphaël Pichon. Ils ont accompagné la soprano Judith Fa et le baryton Stéphane Degout, dans un programme également très germanique, Serge, mais sans Brahms, encore que.
Oui, il y a quand même un arrangement de d'une œuvre de Schubert. Parce qu'il s'agissait donc d'un programme intitulé « Mein Traum ». Alors, d'où ça vient, ce « Mein Traum » ? Eh bien, c'est le titre qu'a donné Ferdinand Schubert, le frère aîné de Franz, à un texte écrit par son petit frère, non, en 1822. Donc, c'était la transcription d'un songe, en quelque sorte.
Mein Traum, mon rêve.
Mein Traum, mon rêve. Et alors, ce qui est incroyable, a priori, je vous avoue avoir été un peu surpris par la structure du concert annoncé. C'est une série de courtes œuvres jouées de manière ininterrompue. Alors, je me suis dit, ça va être un peu fragmentaire, mais pas du tout. C'est incroyable. Je dois dire que j'ai été enthousiasmé par le résultat, puisque j'ai eu l'impression que Raphaël Pichon faisait là œuvre de compositeur et que nous entendions une seule et même et unique œuvre, composée essentiellement de pièces de Schubert, mais pas seulement. Il y avait quelques pièces de Weber, Carl Maria von Weber, et puis également de Robert Schumann, mais peu de pièces, hein, c'était essentiellement du Schubert.
Et il n'y avait pas que des pièces chantées, il faut le préciser.
Ah non, il y avait absolument...
Parce que j'ai parlé des chanteurs et tout ça, mais il y avait la symphonie inachevée.
Il y avait la symphonie inachevée, intégrale, si l'on peut dire. Les pièces se suivent, sont enchaînées, et d'abord, il faut souligner l'intelligence de ces enchaînements, à la fois sur le plan expressif, et sur le plan musical, sur le plan des tonalités, on ne peut pas faire succéder deux tonalités très éloignées l'une de l'autre. Donc, et quand elles le sont, c'est pour des raisons expressives. Donc vraiment, c'était magnifiquement bien fait avec donc, ces trois parties dans le concert. Trois parties. La première s'appelle Traîne, c'est-à-dire lamentation funèbre, hein, en quelque sorte. Alors, très sombre, évidemment, cette partie, qui s'ouvre sur... deux extraits, un extrait d'un oratorio inachevé de Schubert, encore une œuvre inachevée de Schubert, Lazarus, donc, et avec un récitatif et un air chanté magnifiquement, comme on pouvait l'imaginer, par Stéphane Degout, et puis des extraits d'un opéra de Schubert qu'on n'entend jamais, Alfonso und Estrella.
De manière générale, on n'entend jamais les opéras de Schubert.
Non,
en tout cas pas en France.
Non, en tout cas pas en France. Cet opéra est donné quelques fois, oui, de temps en temps en Allemagne, mais très peu ici. Donc cette première partie, assez funèbre, il faut le dire, mais vraiment qui nous met dans une atmosphère incroyable. La deuxième partie s'appelle Mirage. Et là, il y a une série d'œuvres essentiellement donc de Schubert, à part un extrait d'Oberon chanté par la soprano, et puis un extrait de Schumann aussi par le chœur qui est un chœur de femmes, donc de l'ensemble Pygmalion. Là, je dois dire qu'il y a eu un véritable sommet d'émotion de tout le concert. C'était le Doppelgänger, le lead, extrait du Schwanengesang, du chant du cygne, hein, composé la dernière année de vie de ce pauvre Schubert, sa 31e année. Hein. Et là, l'émotion était à son comble. L'interprétation de Stéphane Degout était totalement stupéfiante. Vraiment stupéfiante. C'était dans un arrangement orchestral de Franz Liszt, donc d'une beauté, enfin vraiment à serrer la gorge, hein, c'était très très fort.
Ah, c'est un merveilleux chanteur, Stéphane Degout. Il a été un merveilleux Wojtek.
Un Wojtek l'an dernier, extraordinaire.
Au Capitole, et il sera un grand Onegin, Saint-Jean-Tien-le-Paris, l'année prochaine.
Ça, c'est sûr.
Au même endroit.
Et pour avoir discuté avec lui après le concert, il lui tarde beaucoup de chanter ce rôle d'Onegin.
Donc voilà. Parce que ce sera une prise de rôle.
Ah oui, exactement. Donc, une deuxième partie aussi magnifique, avec Judith Farr, la soprano, chantée depuis les deuxièmes galeries. Donc, on avait l'impression de la voix d'un ange qui descendait vers l'assistance. Donc, c'était très, très beau. Ensuite, la troisième partie est intitulée « Mort et transfiguration ». Alors là, c'est un peu... plagier Richard Strauss, hein, donc, et là, évidemment, on chemine, tout au long d'ailleurs du concert, mais en particulier dans cette partie, on chemine vers une espèce d'idéalisation, de spiritualité, de beauté, donc un moment très très fort, avec notamment des passages incroyables, encore une fois, de Stéphane Degout, notamment des vocalises stupéfiantes dans cet extrait d'Oriente de Carl Maria von Weber, et puis cette sérénité qui est la sienne dans les passages très doux et très, très spirituels. Donc, et ça s'achève sur un psaume de Schubert, « Gott ist mein Hirt », donc « Dieu est mon berger ». Magnifiquement fait, vraiment, là, quand on est arrivé à la fin, il y a eu un grand silence dans la salle, parce que
ça, c'est toujours un signe.
L'émotion était à son comble. Donc, bravo à tous. Le succès était tel qu'on l'a rappelé de multiples fois Stéphane Degout, et qui finalement a donné un bis étonnant auquel on ne s'attendait pas, du Wagner, mais oui, la romance à l'étoile du Tannhäuser, oui, évidemment, qui est une sorte de lead, hein, en quelque sorte. Et là, bon, là aussi, le paradis, quoi, c'était magnifique.
Eh bien voilà un beau lancement de saison pour les grands interprètes grâce à l'ensemble Pygmalion et à Stéphane Degout et Judith Farr. Comme je vous l'indiquais, le programme de ce concert est aussi celui du CD Mein Traum, Mon Rêve, paru il y a quelques mois sous le label Harmonia Mundi. Nous allons en écouter un extrait qui était aussi au programme du concert de lundi, Zur Jagd, à la chasse, un chœur de l'acte 1 de l'opéra Alfonso und Estrella de Franz Schubert, dont parlait tout à l'heure Serge Chosy, interprété par l'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon.
Oh,
Zurjagd à la chasse, cœur de l'acte 1 de l'opéra Alfonso und Estrella de Franz Schubert, interprété par l'ensemble Pygmalion, dirigé par Raphaël Pichon. Et Serge Chosy voulait parler de l'orchestre, justement, de Pygmalion, formidable aussi.
Oui, un très bel orchestre que je n'avais jamais entendu dans cet effectif, une quarantaine de musiciens, hein, avec en particulier des vents et des cordes d'ailleurs anciens, hein, de copies d'anciens, et la qualité des cuivres, tous des cuivres naturels, corps naturel, sac-bout, trompette naturelle, donc au bois baroque et flûte en bois, vraiment qui concourait à au confort, à la rondeur de ces sonorités. Et donc il faut aussi dire beaucoup de bien de la harpiste qui a plusieurs passages où elle est seule pour accompagner, et c'est très important, magnifique. Et la corniste solo, une pure merveille aussi, qui a un solo de corps, c'était sublime.
Serge Chosy, sous le charme des musiciens de l'ensemble Pygmalion, prochain concert des grands interprètes lundi 7 novembre à la Halle au Grain avec Cécilia Bartoli en vedette. Fin de cette première partie d'émission, petite pause et l'on se retrouve en compagnie de Serge Chosy mais aussi de Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Seconde partie de cette émission avec Serge Chosy et nos deux invités d'honneur, Claude Scavazza et Jean-Marc Andrieux, président et directeur artistique des Arts Renaissants, dont la saison commence le jeudi 17 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il faut préciser que c'est le 40e anniversaire de l'association. Nous allons nous plonger dans la programmation 22-23 avec vous deux dans quelques instants, mais il faut que l'on donne une petite explication à la présence de Jean-Marc Andrieux dans cette émission. Jean-Marc était surtout connu jusqu'alors, et bien connu, comme directeur artistique des Passions de Montauban et du festival Passion Baroque. Nous l'avions d'ailleurs reçu il y a quelques semaines pour qu'il nous présente cet événement. Et le voilà donc maintenant à la direction artistique des Arts Renaissants. Claude Scavazza, la raison de cette nomination est assez simple. Elle est liée au départ de Jan Willem Janssen, le prédécesseur de Jean-Marc, qui a décidé de passer la main après, je crois, 35 ans de bons et loyaux services.
Absolument. Donc d'une manière plus générale, puisqu'effectivement la saison est sous l'égide de ce 40e anniversaire, donc toujours fidèle, comme nous le sommes, à l'héritage de Xavier Darras, hein, qui alliait, on le sait, l'excellence artistique et la convivialité. Donc les Arts Renaissants présentent cette année donc une saison exceptionnelle, qui, comme ça vient d'être dit, marquera le 40e anniversaire de l'association. C'est en effet en 1982 que Xavier Darras crée les Arts Renaissants, et dans le même temps, le concept de concert au musée, hein, totalement inédit en France à l'époque, repris par beaucoup de musées de France actuellement, ce qui a permis pendant 35 ans, et j'en arrive à Willem, pendant 35 ans, d'offrir donc dans les salons rouges du musée des Augustins les 6 concerts par an, donc sous la direction artistique, puisqu'il était là dès le début, de Willem Janssen, claveciniste, organiste, professeur au conservatoire, et qui a donc présidé à la direction artistique pendant toutes ces années. Et puis, voulant prendre un peu de recul par rapport au quotidien, il n'habite pas directement à Toulouse, les choses étaient un peu plus compliquées pour lui. Bref, Willem m'a présenté, même si on se connaissait déjà avec Jean-Marc, mais en tout cas avec, dans cette perspective, Jean-Marc, flûtiste international, chef de chœur, chef d'orchestre, directeur des Passions, ancien directeur du conservatoire de Montauban.
Et musicien renommé sur la scène baroque française.
Tout à fait, et qui a bien voulu accepter, effectivement, de reprendre le flambeau, et donc qui a présidé à cette... à la fin de la mise en place de ce programme, hein, et qui en a apporté les touches finales, et qui, évidemment, se replonge dans la saison 23-24.
Jean-Marc Andrieux, comment vous avez accueilli cette proposition? Elle tombait peut-être un peu à pic dans la mesure où vous avez récemment pris votre retraite de directeur du Conservatoire de Montauban, charge quand même importante. Ça tombait bien de ce point de vue?
Eh oui, bien sûr. Comme Willem m'en a parlé, la première chose que je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps? Bon, mais la retraite, oui. Effectivement. Et puis, est-ce que j'en serais capable? Bon, il m'a convaincu. Il m'a dit, quand même, oui. Enfin, bon, bref. J'ai quand même hésité, hein, parce que c'est un grand honneur. C'est une charge délicate, parce que, bon, les Arts Renaissants, c'est une...
Ah, c'est une institution.
Une institution, une maison réputée, une très belle maison. Et je continuerai d'être aidé par les amis. Et je suis très honoré, très heureux de reprendre ce magnifique flambeau. Et comme dit Claude, c'est vrai, cette saison-là, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est quand même Willem Janssen qui en a élaboré la grande partie. Moi, je n'ai fait honnêtement que valider le caravansérail, c'est-à-dire l'avant-dernier concert, et puis on a ensemble décidé aussi avec l'équipe formidable qui nous entoure d'inviter Jordi Savall. On y reviendra.
Bien sûr, on va parler de la programmation. Votre ligne artistique, si on peut appeler ça comme ça, pour les années à venir, vous allez vraiment vous insérer dans ce qui est déjà aujourd'hui la ligne des arts renaissants, à savoir les jeunes talents, des grands noms de la musique actuelle, et puis aussi des musiciens issus de la scène régionale, ça vous y tenez?
Tout à fait, tout à fait.
Oui, en plus ça marche, alors je vois pas pourquoi on changerait, et puis c'est la meilleure formule, il faut le dire.
Nos saisons sont tout à fait sous l'égide de la diversité, hein. Diversité de la programmation, diversité des répertoires, diversité des artistes accueillis.
Des générations.
Voilà, donc avec ces artistes régionaux, avec ces artistes de renommée internationale et ces jeunes talents, on a plaisir à accueillir des jeunes talents avec une certaine capacité à détecter assez précocement des artistes qui deviennent assez rapidement.
Il y en a eu.
Alors,
Jarouski,
Patricia Petitbon, plus récemment notre ami Thibaut Garcia, dont on va parler tout à l'heure.
Oui.
Et puis Léa Descendré, dernier exemple, qui a chanté pour la première fois, et peut-être pour la seule à ce jour à Toulouse.
C'est le cas pour l'instant.
Voilà, c'est le cas pour l'instant.
Elle reviendra sans doute.
Ah oui, il faut qu'elle revienne. Hein. Léa, tu reviens nous voir.
En plus, elle a ses grands-parents qui sont encore en ville. Donc, elle a bonne raison de venir à Toulouse. Elle sera toujours contente d'y venir, ça j'en suis certain. Alors, la programmation 22-23 commence le 17 novembre, comme je l'ai dit, à 20h à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. Et bien, justement, avec un musicien originaire de notre région et formé au CRR de Toulouse, il est même toulousain, le pianiste Adam Laloum. Mais il ne vient pas seul, Jean-Marc.
Il vient accompagné d'une violoniste formidable, Sayaka Shoji, japonaise d'origine qui vit en Europe maintenant et qui fait une carrière mais vraiment qui m'impressionne.
Et qui a commencé très tôt à faire une grande carrière.
Ah oui, qui a remporté des grands prix et puis qui joue dans des grandes formations au niveau planétaire, quoi. Vraiment, on va avoir une chance incroyable d'entendre cet artiste. Déjà, je me frotte les mains déjà, rien que d'y penser.
Oui, alors elle est née à Tokyo en 83, elle a 39 ans, mais c'est la première japonaise à avoir remporté le premier prix au concours Paganini à Gênes, c'était en 99, et c'est même encore à ce jour, je crois, la plus jeune lauréate. Elle avait 16 ans, 15-16 ans.
Impressionnant.
Et puis, c'est un peu une enfant de la balle dans la mesure où j'ai vu que sa mère était peinte, sa grand-mère était poétesse. Elle a passé son enfance à Sienne, c'est ce que disait Jean-Marc, elle ne vit plus au Japon, elle vit en Europe depuis assez longtemps, en Italie. Voilà, elle a joué avec les plus grands chefs. Et donc, avec Adam Laloum, ça va être une première, je crois, en concert pour elle. Le duo va être réuni pour la première fois ou ils ont déjà joué ensemble?
Alors là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, Eric, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ce sera formidable.
Alc le programme Schumann, sonate pour violon et piano, bien sûr.
Oui,
numéro 1,
la première sonate et après les deux sonates de Brahms.
De Brahms, son magnifique programme encore germanique, Serge Chosy.
Serge.
Et ça. Du Schumann. Alors, il n'y a pas de Schubert.
Non, il n'y a pas de Schubert. En bis, on ne sait pas. Vous savez, nous n'avançons pas. Aimez-vous Brahms? C'est le titre d'un roman célèbre de Françoise Sagan. Oui, nous aimons Brahms à Mélomanie. Nous allons donc écouter une de ses œuvres pour la seconde fois dans cette émission. Ça va nous donner l'occasion d'entendre le violon de Sayaka Shoji dans une interprétation du premier mouvement Vivace ma non troppo de la sonate pour violon et piano numéro 1, opus 78 du grand compositeur allemand. Elle est associée ici à Menahem Pressler, un grand pianiste que l'on a souvent eu l'occasion d'entendre à Toulouse. Thank you. le premier mouvement Vivace ma non troppo de la sonate pour violon et piano numéro 1 en sol majeur opus 78 de Brahms, interprété par Sayaka Shoji et Menahem Pressler. La violoniste japonaise va jouer cette même œuvre avec Adam Laloum jeudi 17 novembre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines pour le premier concert de la saison des Arts Renaissants. Le rendez-vous suivant est programmé mardi 6 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme, où vous allez accueillir la violoniste française, même si son nom est trompeur, Amandine Beyer, et l'ensemble franco-italien Gli Incogniti pour un programme entièrement dédié à des concertos de Vivaldi, Jean-Marc.
Ah oui, là ça va être le festival Vivaldi, ça va être du champagne d'un bout à l'autre, un feu d'artifice, voilà, je cherchais le mot. Amandine, donc... que je connais depuis longtemps. Je suis très heureux qu'elle vienne. Et là aussi, je remercie Willem d'avoir eu cette idée formidable d'inviter Amandine, spécialiste de Vivaldi. Elle fait une carrière internationale. C'est une des grandes stars du violon baroque, une des phares du violon baroque français qui rayonne partout dans le monde. Et donc, elle a été une des premières françaises à remporter le prestigieux concours Vivaldi en Italie.
Mais c'est pas par hasard qu'elle présente ce programme.
Pour vous dire la petite histoire, la première fois qu'elle a joué les 4 saisons en public avec un orchestre, eh bien c'est avec nous à la Chapelle des Carmélites en 2000.
Et donc.
En quelle année?
En 2000, j'avais invité.
Et elle est voilà, toute jeune.
Je l'ai revue très souvent, elle est revenue jouer avec nous quelques fois. Et je serais très très heureux de la réaccueillir dans le cadre des Arts Renaissants cette fois-ci. Un grand bonheur.
Donc elle est à l'origine de la fondation de l'ensemble Gli Incogniti. Alors je dis, il y a des musiciens italiens et français dans cet ensemble.
Oui, qui viennent aussi d'Espagne peut-être. C'est un ensemble formidable, elle choisit ses musiciens pour leur énergie, leur communicabilité, leur connaissance du style baroque et tout, c'est formidable.
Il y en a un que vous connaissez très bien parmi les musiciens de l'ensemble Gli Incogniti, Flavio Losco.
Flavio, voilà.
Parce qu'il joue avec vous.
Il est encore avec moi. Avant-hier, on a joué ensemble encore avant-hier. Il joue, oui.
Alors c'est amusant parce que les Gli Incogniti, en italien, en français, c'est les inconnus.
Inconnus.
Mais rien à voir avec
le trio.
Le célèbre trio comique, rien à voir du tout.
Non, c'était une fondation à Venise.
Ouais, c'est ça, voilà, absolument. Oui. Ouais, au XVIIe siècle,
XVIIe et XVIIIe.
Alors, un mot sur le titre de ce programme, Le Monde à l'envers. Pourquoi ce titre?
Ah, ça c'est le titre d'un concerto de Vivaldi qu'on a joué déjà. En fait, c'est la partie de violon et la partie de violoncelle qui sont symétrique, voilà, comme si on regardait dans un miroir, quoi. C'est une contrainte que Vivaldi s'est donnée. Al rovescio, ça veut dire en italien
il mondo al rovescio.
Voilà, le monde à l'envers. C'est pour montrer que finalement, quand on regarde vers le haut ou vers le bas, on peut voir la même chose.
Voilà, donc c'est en fait le titre du concerto en fa majeur, Hervé 572 pour les puristes. Alors, il faut préciser que dans ces concertos, il n'y a pas que des concertos pour violon.
Il y a le hautbois aussi. Ah oui, ben là, on va se régaler aussi d'entendre le hautbois dans un concerto d'Albinoni aussi, que j'adore. C'est un compositeur merveilleux pour le hautbois et on aura aussi la chance d'entendre un concerto pour hautbois.
Il y aura 7 concertos en tout, donc vous allez voir, ça va être très varié, les ambiances vont être très variées aussi.
Hein, oui, tout à fait, on va voir l'autre. Vous allez voir cette imagination de Vivaldi qui est extraordinaire.
Pour illustrer ce riche programme Vivaldi que vont donner Amandine Beyer et l'ensemble Gli Incogniti le 6 décembre à l'église Saint-Jérôme, voici un extrait de ce concerto en fa majeur Hervé 572, celui qui donne son nom à leur CD parce que c'est aussi le titre d'un CD et à leur concert Le Monde à l'envers. Nous écoutons le troisième mouvement Allegro.
Thank you.
troisième mouvement Allegro du concerto en fa majeur RV 572 Il Mondo Arrovecchio d'Antonio Vivaldi, interprété par la violoniste Amandine Beyer et l'ensemble Gli Incogniti, avec qui vous avez rendez-vous le mardi 6 décembre à l'église Saint-Jérôme, concert suivant début 2023, précisément mardi 10 janvier à 20h toujours à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un autre enfant du pays. Après le pianiste Adam Laloum, c'est le guitariste Thibaut Garcia qui va se produire dans sa ville natale. Et là, il est associé à un de ses complices favoris, Félicien Bru, l'accordéoniste que tout le monde s'arrache depuis 3 ou 4 ans en France.
Oui, 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 là, ça... excellente présentation, Eric. C'est... Non, 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 mais c'est très, très bien. C'est un duo phénoménal, phénoménal. Et bon, Thibaut Garcia, Claude, il est connu à Toulouse, c'est quand même une des grandes stars.
Bah, il est venu déjà au moins deux fois, je pense, aux Arts Renaissants.
Oui. Il est venu deux fois, il s'est produit sur la scène des Arts Renaissants une de ses toutes premières fois. Et comme on dit, quand on parlait de diversité des artistes, qu'on voulait à la fois des gens de renommée internationale, des artistes locaux et des jeunes talents. Finalement, il coche toutes les cases. On l'a connu bien avant sa victoire de la musique. Et puis voilà, et c'est devenu une star internationale qui revendique son appartenance toulousaine.
Ah oui, oui, et puis il adore toujours revenir à Toulouse, évidemment. Ses parents,
n'oublions pas qu'il a fondé à Toulouse
Toulouse Guitare. Bien sûr, bien sûr.
C'est magnifique.
Et alors, le programme, donc Vol de nuit, il me tarde d'y être. Parce qu'on va voyager, là, on va traverser l'Atlantique, faire des allers-retours avec de la musique française, espagnole et d'Amérique du Sud. Et quand je vois les... Il y a beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas.
Oui, alors il y a Piazzolla, bon ça on pouvait s'y attendre, oui. Mais il y a beaucoup de transcriptions pour guitare et accordéon, parce que des œuvres écrites directement pour guitare et accordéon, il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Oui, oui.
Il y a Ravel notamment, Alborada del Gracioso, il y a Boccherini, mais comme le dit Jean-Marc, il y en a que ne connaissent que vraiment les spécialistes.
Oui.
Bon, Sainz de la Massa, oui, pour ceux qui aiment la guitare,
oui.
Tout de même,
oui,
parce que ça a été, je crois, le créateur du Concierto de Aranjuez de Rodrigo, Sainz de la Massa. C'est lui qui était, je crois, à la guitare. Et alors, il y a Radames Gnatali. Alors ça, peut-être l'amoureux du Brésil, vous connaissez.
Exactement. Oui, je connaissais un peu. Oui.
C'est les Retratos, la suite Retratos.
Moi, honnêtement, je ne connaissais
Portrait,
pas
Gnatali. Oui.
Ah, c'est ça.
Hein. Et il me tarde d'entendre Joe Priva, quand même. C'était un
Joe Priva, c'est l'accordéon musette, jazz.
À la frontière entre le musette et le jazz, magnifique.
Que revendique d'ailleurs Félicien Bru.
Mais oui.
Félicien Bru qui a une émission sur France Musique depuis 2 ans, c'est la deuxième saison, La Brute d'accordéon.
Oui, oui, oui.
C'est un régal, écoutez-là cette émission, parce qu'en plus il est très doué pour présenter ça, les gens vont s'en rendre compte à Saint-Pierre-des-Cuisines le 10 janvier,
oui.
Il sait présenter ses concerts, les œuvres qu'il joue, vraiment, il aurait même pu faire du stand-up je pense ce garçon. Moi ce programme je l'ai vu à Rocamadour, dans le cadre du festival de Rocamadour, c'était pas Rocamadour, c'était au château de la Traîne, à la cave, il y a 2 ans, dans les jardins, Vol de nuit, ça tombait très bien parce que c'était de nuit, on voyait passer les avions dans le ciel, et effectivement, comme Jean-Marc l'a dit, c'est magnifique, et bien dans ce très varié programme Vol de nuit, j'ai choisi de vous faire écouter un extrait de la suite Retratos du compositeur brésilien Radames Gnatali, la 4e pièce. Thank you. La quatrième pièce de la suite, Retratos de Radames Nathalie, interprétée par Félicien Bru et Thibaut Garcia. Je dis bien Bru, faut pas dire Brut, c'est Félicien Bru, il y tient beaucoup. C'est une des œuvres au programme de leur concert Vol de Nuit à découvrir à Saint-Pierre-des-Cuisines, mardi 10 janvier à 20h. Le quatrième rendez-vous de la saison des Arts Renaissants va être très dépaysant lui aussi. Mardi 14 février à 20h, c'est encore à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il est donné par le Sirba Octet, aux côtés duquel on trouve également la balalaïka du russe Alexei Biryukov. Jean-Marc, je vais vous laisser présenter ces musiciens et leur musique aux accents tzigan, slave et klezmer.
Et oui, comme on a dit tout à l'heure avec Claude, on s'est aperçu qu'on faisait un virage à 180 degrés après être parti en Amérique du Sud, hop, demi-tour et on part vers l'Europe de l'Est. Voilà, donc ce programme, un octuor, Sirba Octet, qui est là aussi, pardon, je suis désolé, je suis obligé de sortir toujours des superlatifs, mais un ensemble phénoménal, basé donc sur cette virtuosité et cette expressivité de la musique d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. J'espère qu'il y aura le cymbalum, cet instrument emblématique que j'adore, qui est vraiment extraordinaire. La balalaïka, je vous avoue que j'en ai pas souvent entendu.
Et concert, c'est rarissime.
C'est pas souvent. Hein.
Bah, sauf pour ses musiques, là, ce répertoire.
C'est incontournable. On aura vraiment des virtuoses. Et donc, on aura aussi de la musique qu'on connaît, qu'on a dans l'oreille. Les yeux noirs, vous connaissez tous les yeux noirs. Voilà, on va entendre ça, mais dans la version... authentique, on va dire. Voilà,
bah, il y a beaucoup d'œuvres au programme, hein. On ne va pas les citer toutes. D'abord parce qu'on sans doute qu'on va massacrer l'accent qu'il faut pour les dire. Mais il y a quoi ? Il y a une quinzaine d'œuvres. Enfin, c'est extrêmement varié.
Oui. Très, très, très conséquent. Et on va entendre « Ochi Chornie », le fameux yeux noirs.
Vous le faites beaucoup mieux que moi. Merci de l'avoir fait à ma place.
On peut le faire en cœur, non ? On ne va pas essayer.
Non, on va éviter. Voilà, des airs traditionnels.
Et Kalinka,
alors. Oui, alors avec un russe à la balalaïka, c'est pas impossible.
Mais alors, Claude, il devait venir ? Non, c'est pas eux qui devaient venir, et puis à cause du Covid.
Ah ben, Sirba Octet, on les avait programmés il y a deux saisons, effectivement, et ça fait partie finalement des deux rares concerts qu'on a dû annuler. On en a décalé beaucoup, mais en fait, on en a annulé que deux, dont Sirba Octet. Mais ils sont déjà venus aux Arts Renaissants.
Oui, quelques fois.
Ils ont déjà joué l'an dernier, je les ai vus, au concert annuel des Arméniens Midi-Pyrénées. C'était à la Halograin, magnifique. Et il y avait déjà avec eux le balalaïkiste, je ne sais pas si on dit comme ça, Alexei Biryukov, qui est un de leurs complices de longue date. Voici un extrait du programme du Sirba Octet, la suite de Moldavie. La suite de Moldavie, extrait du programme que vont jouer le Sir Bauktet et Alexei Biryukov mardi 14 février à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, une musique très festive. Avant-dernier concert de la saison, mardi 28 mars, toujours à 20h, à l'église Saint-Jérôme. Vous avez invité le claveciniste Bertrand Cuillet et sa formation le Caravansérail, qui vont donner un programme entièrement consacré, non pas à Vivaldi cette fois-ci, mais à son contemporain Domenico Scarlatti. Et c'est une très bonne chose parce que ce n'est pas si souvent que l'on entend des concerts dédiés à ce compositeur qui reste finalement assez méconnu du grand public, et c'est très dommage, Jean-Marc.
Tout à fait, d'autant plus que ce fameux Stabat Mater de Scarlatti, alors c'est une œuvre que j'adore, qui est vraiment extraordinaire, d'une beauté. En plus, il a 10 chanteurs que je connais qui sont formidables. Et en plus, c'est le seul, on a remarqué, c'est le seul concert de musique vocale.
Oui.
Donc, à ne pas rater.
Oui.
Et Scarlatti, on le connaît surtout pour ses 555 sonates pour
clavecin virtuose.
Mais on sait moins qu'il a écrit aussi une œuvre vocale magnifique, vraiment magnifique. Et ce Stabat Mater que j'ai chanté déjà est vraiment poignant. Il me tarde de l'entendre aussi. Et puis, je suis heureux de retrouver Bertrand Cuillet, que je
grand
connais bien.
Grand claveciniste aussi.
Voilà, qui s'est entouré d'une équipe formidable.
Le Caravansérail, donc c'est vraiment sa formation, c'est lui qui l'a
formé. C'est une jeune formation donc créée en 2015. Et là aussi, on joue notre rôle de découvrir des talents naissants aux arts renaissants.
Ouais, oh bravo, comme c'est bien dit. Donc effectivement, il y a le Stabat Mater à 10 voix et basse continue, la Missa Brevis Quatuor Vocum, messe de Madrid, la sonate pour clavier en sol mineur et le Te Deum à double cœur. Pour notre plaisir, et je l'espère celui de nos auditeurs, nous allons écouter un extrait du Stabat Mater à 10 voix et basse continue de Domenico Scarlatti, la première pièce Stabat Mater Dolorosa, interprétée par le Caravansérail. Oui, c'est dur d'arrêter, tellement c'est beau. Stabat Mater Dolorosa de Domenico Scarlatti, interprété par le Caravansérail, dirigé par son fondateur, le claveciniste Bertrand Cuillet. Vous pouvez donc les retrouver dans un programme entièrement dédié à Scarlatti, mardi 28 mars à 20h à l'église Saint-Jérôme. Sixième et dernier concert de la saison 22-23 des Arts Renaissants, mardi 2 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, où vous recevez un immense musicien qui a ses habitudes de longue date à Toulouse et en particulier aux Arts Renaissants, Jordi Savall. Le Catalan va se produire avec un des ensembles qu'il a fondé, un des plus célèbres, le Concert des Nations. Le programme a été intitulé « Tous les matins du monde » en référence au film d'Alain Corneau qui a rendu célèbre Jordi Savall auprès du grand public, Jordi Savall et la viole de gambe. On va donc y entendre essentiellement les musiques des compositeurs français du grand siècle qui constituent la bande originale du film, Claude.
Oui, alors Jordi Savall est probablement un des artistes qui s'est le plus produit aux Arts Renaissants depuis 40 ans finalement. Je n'ai pas retrouvé le programme de la première saison, mais peut-être y était-il déjà. Et puis il a accepté, parce qu'on le connaît bien, de faire un exercice qu'il n'a pas fait depuis longtemps, qu'il ne fait plus depuis longtemps, qui est de la bande originale donc, du film Tous les matins du monde. Donc on aura ce plaisir. C'est les 30 ans du film. Hein. Le film a fêté ses 30 ans. Et puis voilà, les 40 ans des arts Renaissance sous l'égide de ce grand artiste qui est Jordi Savall.
Je recommande aux auditeurs de voir le film avant. De revoir, oui, voire ou revoir.
Ouais, ouais.
Et je pense que le concert, ils l'apprécieront encore plus de voir cette musique en chair et en os qu'ils auront entendue au cours du film.
Bonne idée.
Puisqu'il y aura les musiques de Monsieur de Sainte-Colombe, le père qui est joué par Jean-Pierre Mariel le film.
Oui.
Les musiques de Marin Marais, bien sûr.
Bien sûr, l'élève de Sainte-Colombe qui espionnait son maître sous la cabane.
Voilà, Gérard Depardieu qui est joué par Gérard Depardieu. Mmh. Enfin, d'abord, Guillaume Depardieu, jeune, et puis, dans la maturité, Gérard Depardieu. Il y aura des extraits de la suite, Le Bourgeois Gentilhomme de Jean-Baptiste Lully. Et puis, les concerts royaux et nouveaux concerts de François Couperin.
Et incontournable aussi, quelle musique, quelle chance on aura.
Eh bien, pour conclure cette présentation du concert de Jordi Savall et celle de la saison des Arts Renaissance, je propose qu'on écoute un extrait des superbes concerts royaux de François Couperin, la forlane du rondeau du 4e concert joué par le Concert des Nations. La forlane du rondeau du 4e concert royal de François Couperin, interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall, c'est une des pièces au programme du concert qu'il donne le mardi 2 mai à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, le dernier de la saison 22-23 des Arts Renaissants. Il nous reste quelques instants pour annoncer le prochain concert de l'Orchestre du Capitole dont je vous ai parlé en début d'émission. Il a lieu ce vendredi 21 octobre à 20h à la Halle au Grain et c'est la jeunesse qui va y être au pouvoir en la personne de Tarmo Peltokoski, nouvelle petite merveille de la baguette finlandaise âgée d'à peine 22 ans. Le soliste invité est un autre tout jeune homme, le violoniste américain Chad Hoops, qui lui a 28 ans. Quel est le programme de cette soirée, Serge ?
Eh bien, il y a trois œuvres, avec deux œuvres concertantes, avec tout d'abord une œuvre rare, finalement, et très belle, qui est du britannique Ralph Vaughan Williams, et qui s'appelle The Lark Ascending, c'est-à-dire L'envol de l'alouette, une courte pièce inspirée d'un poème de George Meredith. Et puis ensuite, le concerto pour violon et orchestre en ré majeur de Erich Wolfgang Korngold, grand compositeur autrichien, réfugié à Hollywood et qui a beaucoup composé de musique de film en particulier. D'ailleurs, certains thèmes de ses musiques de film, il les a intégrés dans ce concerto. Et en deuxième partie, alors une œuvre très consistante puisqu'il s'agit de la 5e symphonie de Dmitri Shostakovich, cette fameuse symphonie que Shostakovich avait écrite pour... répondre d'un compositeur, disait-il, à de justes critiques, à la suite de l'échec de Lady Macbeth de Mzensk, qui a été détesté et interdit par Staline. Donc, une grande symphonie de Shostakovich.
Un gros programme et l'occasion de découvrir ce jeune chef finlandais, Tarmo Peltokoski, dont on entend beaucoup, mais vraiment beaucoup de bien. Non, il va diriger l'ensemble symphonique toulousain à la Lograin vendredi 21 octobre à 20h. Un concert au Chat Oops va jouer également le concerto pour violon de Korngold, comme vous le disait Serge Chosy. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Ce numéro de Mélomanie est terminé. Un grand merci à mes trois invités, Serge Chosy, Jean-Marc Andrieux et Claude Scavazza, d'y avoir participé. Je rappelle que la saison 22-23 des Arts Renaissants commence le jeudi 17 novembre avec le concert du duo Adam Laloum, Sayaka Shoji à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.art-renaissant.fr où vous trouverez aussi tout le détail de la programmation de la saison. Les abonnements sont toujours en cours. Notez enfin le concert que donne le trio formé par le mandoliniste Julien Martineau et les pianistes Constant Després et Rolando Luna mardi 25 octobre à 20h30 à la salle Altigone de Saint-Orens-de-Ganneville, quand le classique rencontre le jazz, trois grands musiciens réunis pour ce concert au profit de l'association Action Femmes Grand Sud. Je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne pour cette belle soirée musicale et caritative sur le site www.actionfemmesgrandsud.fr. Merci à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de votre fidélité à notre écoute et excellente semaine musicale à tous.